Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui commence avec un morceau de The Cure, choisi par José, un morceau très célèbre qui s'appelle Killing an Arab, donc tu es un arabe.
Killing.
Non, Jean-Mathias, ne répète pas les absurdités de gens qui ont l'oreille fine. Et donc c'est un morceau de 78, bon, vous connaissez sans doute, c'est inspiré par L'étranger de Camus. Donc, José mis une petite blague, Camus, Albert, par Renaud, évidemment.
Et oui, mais...
Et parce que, et pourquoi donc, José maintenant nous donne même les blagues de lancement, parce que Jean-Mathias, ce soir, va nous présenter un livre d'Hervé Lebras, qui, si je ne me trompe, est démographe.
Absolument.
Et qui, livre qui s'intitule « Il n'y a pas de grand remplacement », un essai publié donc chez Grasset, et peut-être que vous l'ignorez, mais justement, la théorie du grand remplacement, enfin la théorie avec de grosses guillemets, hein, a été justement avancée par un fameux Renaud Camus, qui a fait bénéficier auparavant la littérature de son ouverture d'esprit. Donc il n'est absolument pas démographe, le petit Renaud Camus.
Ah non, il est même farouchement hostile.
Et même sans doute farouchement hostile à la démographie, parce qu'elle doit le contredire avec des faits. Mmh. Et donc c'est intéressant effectivement par rapport à ce genre de mensonges répandus sur les ondes de pouvoir argumenter et de pouvoir contredire un petit peu de façon solide ce que beaucoup de gens vont vous avancer comme une évidence sans aucun support empirique, enfin voilà, sans, sans aucune preuve.
Et contrairement à toutes les projections, chiffres et statistiques disponibles, quoi. Voilà. Alors, Lebrun, on a déjà chroniqué, je crois, c'est démographe, alors il est à la retraite maintenant, hein, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui a travaillé avec Emmanuel Todd aussi dans le temps. Et c'est quelqu'un qui s'est alors là, il a sorti deux livres récemment, là, celui-là vient de sortir. Et en parallèle, il y a un autre livre qui est sorti sur, en fait, une étude comparative du vote d'extrême droite en Europe, donc dans différents pays européens, en montrant, ça s'appelle le grand enfumage, je crois. Alors, c'est donc une comparaison pour essayer de, dans laquelle il montre, en fait, qu'il y a une déconnexion complète entre la présence des immigrés quelque part et le vote d'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, on vote d'extrême droite essentiellement là où il n'y a pas d'immigrés. Donc, non pas comme si c'était une réaction à des effets de seuil ou des remplacements divers et autres, mais c'est là où il n'y en a pas. Donc, en fait, je signale parce que les deux bouquins vont un petit peu, enfin, c'est pas qu'ils vont ensemble, mais en fait, ils abordent un peu ce problème de deux manières différentes. Alors, ça, ce petit essai là, donc chez Grasset, là, on est désolé, mais l'essai est bon, même si l'éditeur est, voilà. Il n'y a pas de grand remplacement. Alors, c'est un petit argumentaire, une centaine de pages, très réussi, je trouve, très mordant, très informé, très dense, avec beaucoup d'humour, avec un art de la chute en fin de chapitre qui est assez, je vais vous en lire quelques passages parce qu'il se fait plaisir. Et alors, qu'est-ce qui motive ça? Ben, tu parlais de Renaud Camus à l'instant là, mais voilà. Alors aujourd'hui, on en a appris que Zemmour avait été blanchi là par le tribunal des accusations de péténisme. Donc Zemmour n'est pas péténiste auprès de la justice française. Donc ça, c'est une nouvelle qui est intéressante. Et donc en plus d'avoir soutenu,
Zemmour a soutenu que Pétain avait protégé les juifs français. On sait que c'est faux.
Donc alors bon, ça c'était voilà une des punchlines d'Éric Zed pendant la dernière campagne présidentielle. Et puis son autre punchline, mais c'est qui est plus fondamental, c'est justement cette idée de grand remplacement qu'il emprunte donc, comme tu l'as dit, à Renaud Camus. À Renaud Camus, c'est un obscur romancier qui vit dans un château tout seul en centre de la France après avoir été un jet-setter pendant les années 80, de haute.
Un obsédé du beau langage aussi.
Oui,
ça a remarqué.
C'est vrai. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est surtout donc c'est un facho, chaud pur jus. Et donc cette idée de grand remplacement, alors c'est l'idée quoi, on fait très vite, hein, c'est l'idée que en fait il existe aujourd'hui un projet politique de la part d'élites, je mets ça entre guillemets, tout ça, qui vise en fait à substituer à la population européenne blanche, on va dire, et de culture judéo-chrétienne, je mets tout ça avec mille guillemets, qui vise donc à remplacer progressivement cette population par une population d'origine immigrée africaine de confession musulmane. Voilà, je vous la fais vite, mais en gros c'est ça. Et l'idée, c'est que c'est pas une immigration subie, mais c'est une immigration qui est organisée sous l'égide d'élites un peu obscures. Alors souvent on mentionne l'ONU, puis après donc ça va être les gouvernements, les mondialistes, ça c'est la version Marine Le Pen. Mais en fait c'est cette idée que en fait il y a un projet politique de remplacement de la population par une autre, avec une élimination progressive de ça, et que ce projet est en cours déjà depuis bien longtemps, et qu'il s'accélère et qu'on arrive effectivement dans une phase un petit peu décisive de ça, de cette confrontation des populations, des cultures. C'est donc en fait une thèse qui se veut démographique, en fait, quand même. Hein. Et alors on peut trouver ça effectivement un peu extravagant. Première page du livre, quand même, il rappelle la chose. Alors, ça prouve pas que ça n'est qu'un sondage, mais il rappelle un peu l'impact en fait que cette idée a maintenant dans la population quand même. En octobre 2021, écrit Lebrun, un sondage de l'Institut Harris Interactive a posé la question suivante. Certaines personnes parlent du grand remplacement, c'est-à-dire que les populations européennes, blanches et chrétiennes, étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire. Ça, c'est la thèse. Pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France? 61% des personnes interrogées ont répondu oui, et 39% non. Alors, c'est un sondage. Évidemment, la question, elle est assez fermée, on va dire. Lebrun remarque qu'apparemment, personne n'a refusé de répondre malgré l'énormité de la question. Mais tout ça pour dire que c'est une thèse qui paraissait parfaitement farfelue il y a encore quelques années et qui, effectivement, à force de matraquage via CNews, via Zemmour, etc., commence à prendre corps, effectivement, au moins dans une une partie significative de l'opinion publique. Alors, ça ne la rend pas plus vraie pour autant, évidemment. Mais en fait, c'est un peu la motivation du bouquin d'après Lebrun. Et il a pas tort, je pense, d'insister là-dessus. Il dit qu'en fait, actuellement, et jusqu'à présent, c'est cette idée d'un remplacement des populations et surtout un mot d'ordre d'extrême droite, xénophobe, raciste, anti-immigration. C'est un mot d'ordre, mais qu'il est important de le contrer par des faits et par des chiffres, hein, parce qu'à partir du moment où un mot d'ordre devient suffisamment prégnant dans l'opinion, en fait, ça devient un acte de foi, et que là, ça devient beaucoup plus difficile à réfuter un acte de foi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut croire qu'il y a un grand remplacement, les chiffres, de toute façon, seront systématiquement mis de côté, rejetés, et il fait un parallèle avec le terme de national-socialisme, en fait, qui a mis du temps, en fait, à s'imposer, y compris en Allemagne, parce que justement, l'appellation, en fait, l'appellation et la caractérisation, comme ça, sous forme de slogan du parti, a mis un peu de temps à se former, et en fait, le terme national-socialiste a ensuite effectivement été perçu, au moins au moment de l'accession d'Hitler, comme à comprendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'il était à la fois national et socialiste, donc deux clientèles, et donc une majorité possible, et donc, effectivement, il a joué aussi ce rôle de catalyseur dans l'opinion. Alors, faut effectivement rester comparer ce qui est comparable. Mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que c'était de mot d'ordre à l'acte de foi, il y a quelque chose d'important, et d'où effectivement la nécessité de démonter ça et d'opposer effectivement un certain nombre de chiffres.
Alors malgré tout, ça pose une question. Justement, tu dis de poser des faits. Malgré tout, pour qu'on soit obligé maintenant de s'opposer aux faits et de montrer que cette thèse est fausse, il y a quand même un gros problème derrière ça. C'est que on pourrait, avant même ça, on peut s'en tenir à la question des valeurs. C'est-à-dire, il se pourrait que cette thèse soit vraie et qu'on s'en foute.
Oui, tout à fait.
Tu vois,
c'est pas incompatible.
Et le truc ici, il est quand même hyper problématique. C'est-à-dire qu'on est tellement, à mon avis, on a tellement le nez dans l'extrême droite.
Ouais.
Que d'une certaine manière, en allant sur le terrain des faits,
oui. Alors, tu vois, il s'agit pas simplement de dire si tu veux. Enfin, les faits, assez vite.
Ouais, mais je sais. Mais
ce qu'il essaie de montrer,
tu vois le problème que j'essaie de montrer, c'est-à-dire que, en fait, on aurait pu, on est dans une période plus, idéologiquement plus saine.
Ouais.
On aurait pu juste dire. Vous dites de la merde, mais même si c'était vrai, on s'en fout.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Et là, on est coincé parce que, d'une certaine manière, on a l'impression que le truc mord tellement.
Tu penses que c'est une position qui est un peu défensive, tu veux dire.
Oui, du coup, c'est ça. Ouais. Parce que d'une certaine manière, t'admets en reconnaissant, en allant sur le terrain des faits,
que c'est une possibilité.
Que t'admets que c'est une possibilité.
Et que c'est un problème.
Et que c'est un problème.
Et que ça pourrait être un problème.
Et peut-être que, après, est-ce que politiquement, on a encore le loisir, entre guillemets, de ne même pas aller sur le terrain des faits, juste de leur dire, allez vous faire voir. C'est même pas notre problème, en fait.
Oui, c'est sûr. Alors, après, du point de vue, les deux s'excluent pas, parce que la partie chiffrée du bouquin, c'est une partie qui est importante, en fait. Il prend des projections, il montre la difficulté de les faire, le caractère délirant des projections sur lesquelles s'appuient, effectivement, les partisans de ce mot d'ordre, enfin, ceux qui lancent le mot d'ordre de grand remplacement, là. Après, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre aussi qu'il y a une particularité française, pour le coup, de ça, c'est-à-dire de cette. Alors, il n'y a pas que les Français qui parlent de grand remplacement, mais le fait que si tu veux, la perception effectivement d'une espèce de menace de submersion migratoire a une dimension qui est effectivement particulièrement prononcée en France, et il fait une genèse historique de ça, c'est intéressant. Et puis tu as aussi une espèce de remise en perspective de donc je vais en parler tout à l'heure, mais il fait aussi une remise en perspective là, Hervé Lebrun, de l'origine littéraire, en fait, du fantasme, si tu veux. Donc il parle notamment du fameux roman là, Le Camp des Saints, qui est en fait une espèce de bible, en fait, de l'extrême droite, de Raspail. C'est un roman de 73, c'est un truc de science-fiction qui en fait te met en scène justement une espèce d'invasion migratoire. Alors là, en l'occurrence, ce sont des Indiens et des Pakistanais qui arrivent sur les côtes méditerranéennes, on ne sait pas trop comment, et qui effectivement progressivement colonisent en fait le sud de la France. Et c'est ce récit-là qui a servi effectivement en fait de point de départ à Camus, en fait à Renaud Camus en l'occurrence, pour cette idée de grand remplacement. Et là les mises en perspective sont intéressantes, parce que si tu veux, c'est une manière de se mettre aussi dans l'imaginaire et dans les fantasmes effectivement paranoïaques qui sont à l'œuvre, hein, pour justement rendre crédible en fait cette idée ou cette perspective de grand remplacement qui repose absolument sur rien en fait d'un point de vue factuel. Donc ça s'oppose pas, si tu veux, c'est pas simplement une réfutation chiffrée du truc, mais il y a des réfutations chiffrées qui sont intéressantes, notamment sur les rares études qui peuvent être mises en avant par les partisans de la théorie du grand remplacement et qui effectivement le sont de manière complètement farfelue, hein. C'est ça qui montre. Donc du coup voilà, ça c'est sur un peu l'enjeu du livre si tu veux, et c'est un argumentaire qui pour le coup est assez implacable. Donc cette idée qu'effectivement ce constat qu'il y a effectivement dans l'opinion que une crédibilité en fait de cette perspective là de grand remplacement, et donc qui est perçu effectivement comme une menace, comme tu dis, on pourrait effectivement ne serait-ce que là arrêter la discussion, mais de fait
surtout qu'à mon avis en fait ils n'ont rien à faire des arguments rationnels et factuels, mais alors, bon, ça c'est encore un autre problème.
Il faut les avoir, je pense.
Pas forcément pour ceux qui sont directement en face et qui sont des idéologues, mais éventuellement pour toute une frange peut-être incertaine. Ça fait partie de la bataille idéologique, disons.
Ah oui, parce que si tu veux, les chiffres, du point de vue des chroniqueurs télé, des têtes d'affiches politiques, en fait, ils se targuent effectivement de chiffres systématiquement. Ouais. Donc, si tu veux, c'est quand même des éléments de crédibilisation qui sont importants. Hein. Donc voilà. En tout cas, très bel argumentaire, très efficace, très dense et bien écrit, je trouve. Donc, après, on peut rentrer, peut-être faire une première pause, puis après, je dirais quelques extraits différents pour que vous ayez un peu une idée du type d'argument et puis du type d'infos sur lesquels il s'appuie, quoi.
Yeah. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 à la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, consacrée à la présentation d'un livre d'Hervé Lebrun. Il n'y a pas de grand remplacement. Et après, ce morceau de Tracy and the Plastics, The Myth of the Front. Donc ça, je ne connais pas. Je pense que vous pourrez trouver des références quelque part sur Internet, parce que c'est sans doute là où José les a trouvées. Voilà, et donc, et donc là, on parlait justement de ce fantasme dystopique de grand remplacement qu'on trouve à l'extrême droite et qui a justement débordé largement les égouts intellectuels de l'extrême droite pour se répandre un peu partout dans la population. Donc on voyait un petit peu la problématique qu'il y avait autour de ça, c'est-à-dire quel est l'intérêt de les... Il faut les contredire sur le plan des faits, tout en admettant, à mon sens malgré tout, que la question devrait aussi... devrait d'une certaine manière être interdite au nom des valeurs, mais qu'on peut peut-être plus le faire, tout en sachant aussi que avancer les faits aura peu d'impact sur les gens qui sont déjà convaincus. Donc c'est une tâche qui est lourde, mais sans doute assez nécessaire.
C'est ce qu'on disait, si tu vas la poser, si lui il est dans une position, en fait, tu vois,
oui, il est démographe, il fait son
rationaliste et tu vois les lumières classiques, hein, je veux dire, à partir du moment où t'as des faussetés qui sont infusées à G continue dans l'opinion publique. Mais alors du coup, tu disais c'est effectivement sur le caractère dystopique du truc, tu crois pas si bien dire, parce que alors il reprend le temps effectivement de mettre en parallèle l'origine qui est effectivement une origine romanesque, fictionnelle en fait, de cette idée de grand remplacement, donc qui date de 73, romancier Jean Raspail, qui est une espèce de d'auteur maudit à l'ultra droite, si tu veux, chez les suprémacistes blancs, et qui publiait ce roman qui s'appelle Le Camp des Saints, en 73, donc. Et donc, c'est un roman qui raconte l'arrivée d'une flotte d'Indiens faméliques sur les plages proches de Saint-Tropez. Je ne sais pas si vous voyez le cas dans lequel on est. Vous voyez, Saint-Tropez, Zemmour vient d'annoncer sa candidature aux législatives à Saint-Tropez. Donc on est dans la matrice là, voyez, on est quelque part dans le voilà dans ce pays très étrange. Alors je vous le fais quand même rapidement. Le montage est habile là chez dans le livre d'Hervé Lebrun là, dans le il n'y a pas de grand remplacement, parce qu'il commence par raconter, si tu es la fiction, donc il fait un petit résumé, je vais vous lire ça, et ensuite il met en parallèle avec une scène qui s'est réellement produite, c'est-à-dire l'arrivée effectivement de migrants syriens. Yézidi, en l'occurrence, sur les côtes effectivement méditerranéennes françaises, et la manière tout à fait différente dont les choses se sont passées. Et alors je vous donne la chute quand même, c'est pour vous donner un peu une ambiance. Il dit effectivement que habituellement on dit, c'est une citation de Marx fameuse, qu'en fait l'histoire se répète la première fois sous forme de tragédie et la deuxième fois sous forme de farce. Et en fait il dit là c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait le roman de Raspail c'est plutôt la répétition sous forme de farce, alors qu'effectivement la tragédie on l'a eu après. Mais tout à fait de manière complètement différente, évidemment, de ce qui est décrit par ce romancier d'ultra droite, Jean Raspail. Alors, je vous lis rapidement les choses. Donc, alors, première étape, les Indiens. Donc là, on est dans la fiction, Le Camp des Saints, Jean Raspail, 73, ultra droite, subconscient zémourien. Allons-y. Alors, le récit du camp des Saints de Raspail est excessif. Hein, il nous dit, c'est pas un navire qui aborde le jour de Pâques sur les rivages de la Côte d'Azur, mais 100 d'un coup, qui sont rouillés. Alors là, il cite, hein, rouillés avec une odeur de latrine. Chacun chargé d'une dizaine de milliers d'individus, cite encore, entassés par couches humaines dans les cales et les ponts. Ils ont quitté 6 semaines plus tôt Calcutta, sur les bords du Gange. La description de leur foule n'est pas tendre. Elles grouillent, entre guillemets. Colonie de fourmis, entre guillemets, voire de microbes, entre guillemets, épouvantable armée, entre guillemets, millions de sauvages gesticulants, hordes déchaînées, torrents humains, racailles, marabunda, alors il précise, parce qu'effectivement on n'est pas tous, il s'agit d'une colonie de fourmis légionnaires qui détruisent tout sur leur passage au Brésil, voilà. En débarquant, il dégage d'ailleurs, il cite, une épouvantable odeur flottant sur la mer, beaucoup tombent à l'eau, puces infimes. Ah, c'est une citation de Raspail, hein, donc voilà, ce romancier de l'ultra-droite, on est dans Le Camp des Saints. Alors ensuite, Hervé Lebrun résume assez rapidement, hein, leur arrivée sème un vent de panique dans la population locale qui prend la fuite vers le nord dans un désordre rappelant l'exode de 40 face à l'avancée allemande. Dès lors, les hommes du Gange progressent en pillant, en violant et en tuant, même les humanitaires et les catholiques de gauche qui sont venus les aider et leur procurer des vivres. Aujourd'hui, cette province de France est à forte majorité indienne, nous dit Jean Raspail dans ce roman, cette fiction. Répercutée par les médias du monde entier, l'invasion des Indiens suscite celle des Chinois en Sibérie et la formation d'autres armadas à Manille, Jakarta, Karachi, Conakry. Le tiers-monde dégoulinait et l'Occident lui servait d'égout. Écrit Jean Raspail. Voilà, c'est ça, hein, le livre Princeps de Renaud Camus et de la théorie du grand remplacement, on est là. D'accord. À Paris, il continue, une centaine de milliers de Noirs et d'Arabes, alors là, il est plus clair, hein, voilà, apprenant la nouvelle, massacrent leurs patrons et les cadres français. À Londres, 2 millions d'étrangers campent dans les rues. L'un des protagonistes s'exclame « Vous avez créé de toutes pièces au cœur de notre monde blanc un problème racial qui le détruira. » Tout ça, ce sont des citations du livre de Raspail. Les Français se montrent incapables de se défendre à cause de leur conception de la charité et des droits de l'homme. Le roman constitue pour l'essentiel une charge violente contre la quasi-totalité de la société française, au point que l'invasion semble un prétexte ou une mise en scène destinée à la critique des institutions du pays. De là, je cite, « putain numé mass media ». Alors là, on est en 73, donc mass media, plus personne ne parle comme ça, hein, bon, sauf sur Radio Courtoisie. Mais là, en 73, on en parle encore comme ça. Donc, la putain nommée mass media du gouvernement et des partis, du clergé, des évêques, des curés, des moines, des rentiers, des anciens élèves de Normale Sup, nous dit-il, sic, etc. Bon, les îlots de résistance sont rares. L'Afrique du Sud en pleine apartheid. Alors, il y a l'Afrique du Sud quand même qui sauve un peu la cause suprémaciste. Hein. On est vraiment là-dedans, en fait. C'est une dystopie suprémaciste planche. Alors, les îlots de résistance sont rares dans le roman de Raspail. L'Afrique du Sud en pleine apartheid qui refuse d'accueillir la flottille quand elle passe au large du Cap. Un colonel qui, je cite, « chasse l'homme noir comme on tire le lapin dans une chasse gardée ». Fin de citation. Et qui a participé au putsch de l'OAS aux côtés du général Schall. On ne peut certes pas demander à un roman de Fouanard, ça c'est le bras qui commente évidemment, qui nous dit, le roman de Raspail, donc voilà, on ne peut certes pas demander à un roman de fournir un programme de défense contre la grande migration. Le complotisme affleure en de nombreux passages. C'est un Chinois qui a manipulé la foule à Calcutta pour qu'elle s'embarque. Ici, de nouveau, les autorités truquaient les statistiques. De toute manière, la cause de l'Occident est perdue. Cite, 700 millions d'individus principalement concentrés en Europe et cela face à plusieurs milliards de non-blancs. D'insectes, aurait rectifié Alfred Fabrelus qui titrera ainsi l'un de ses ouvrages. Il n'y a plus rien à faire devant cette évidence. Et il conclut. Famine, guerre, inondation, épidémie, démographie galopante, superstition, puissance des mythes, poids du nombre, tout y est. Pas besoin d'ordinateur pour prévoir l'avenir, nous dit Jean Raspail.
Ce qui est abominable dans ce truc, ouais, c'est qu'il écrit ça comme de la science-fiction.
Et alors attends, il finit, c'est pour vous donner des petits... Bien sûr, mais là on est dans une dystopie, voilà. Ouais. Donc Hervé et Lebras finit après cette espèce de sombre prophétie en disant « Toute ressemblance avec des personnes vivantes est exclue. » Même si Raspail se moque au passage des prénoms des Indiens. Et donc en fait voilà d'où on vient, si tu veux, c'est à dire qu'en fait cette projection du grand remplacement qui est actuellement portée par un candidat à la campagne présidentielle, candidat à Saint-Tropez pour juste, j'imagine, empêcher l'arrivée des Pakistanais ou des Tamouls, voilà, en fait ça vient de cette merde. De cette merde-là, qui, enfin, on peut pas aller plus loin que ça, si tu veux. T'es dans une dystopie, effectivement, suprémaciste. Et en fait, on voit bien, ça, je vais y venir aussi. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, ce qui vise, en fait, évidemment, le Raspail, là, comme tout bon ultra-droitier qui se respecte. Alors, il y a les immigrés, bien sûr, mais au fond, les immigrés, c'est pas vraiment une cible, parce que c'est pas vraiment des êtres humains. Donc, si tu veux, ça s'élimine. Mais en fait, les vrais adversaires, c'est quoi? Ben, en fait, ce sont ceux qui vont effectivement défendre effectivement les droits des immigrés, les droits de l'homiste, les cathos de gauche. À l'époque, on est en 73. Donc, évidemment, c'est les ancêtres des islamo-gauchistes, quoi.
C'est
si
les traîtres à la race.
C'est les traîtres à la race. C'est les traîtres, voilà. Donc, c'est évidemment ça, effectivement, c'est cette émine de l'intérieur là qu'il veut d'abord viser dans cette dystopie. Et là, tu as le dispositif, c'est-à-dire qu'effectivement. Tu vois que la démographie n'a absolument rien à voir, en fait, dans cette affaire-là. On est dans du pur délire paranoïaque idéologique, en fait. Voilà, enfin, voilà, idéologisation d'une paranoïa, on va dire. Donc, on est vraiment au cœur, si tu veux, voilà, d'un imaginaire, des fantasmes les plus dégueulasses, en fait, que t'as à l'extrême droite, du fantasme raciste pur et dur, si tu veux. Et à partir de là, effectivement, on va te construire quelque chose comme une espèce de programme ou d'argumentaire politique derrière, mais au départ on est dans le pur délire raciste le plus dégueulasse, quoi, en fait. Donc concentré dans ce roman de Jean Raspail, Le Camp des Saints. Alors je fais vite là-dessus sur la manière dont il met en parallèle du coup l'arrivée de Kurdes, en fait, qui sont arrivés, de Kurdes de Syrie, qui sont effectivement arrivés en 2001.
Les yézidis.
Les fameux yézidis, là.
Ont été victimes d'un génocide.
Victimes d'un génocide, exactement, en Syrie. Et en fait, ils montrent comment un, la réaction de la population et en fait les comportements, y compris des gens, des yézidis en question, des Kurdes, n'a absolument rien à voir évidemment avec ce que décrit Raspail. La manière dont ils sont disséminés petit à petit dans différents pays d'Europe en comptant sur leur réseau, comment ils ont essayé de manipuler un peu l'OFPRA, puis finalement on l'a fini par lâcher le morceau parce qu'en fait au départ ils avaient peur d'être rebalancés parce que pas forcément dans les cadres effectivement des demandes d'asile, alors qu'en fait leur demande d'asile a fini par être validée, etc. Bref, rien à voir évidemment avec cette espèce de submersion complètement délirante en fait de Raspail qui sert en fait de matrice. En fait. Au fond, la seule confirmation, si tu veux, de cette projection là du grand remplacement, c'est ce fantasme racisme là. Là, t'es au cœur du truc. C'est ça, en fait, qui s'exprime, et pas autre chose. Puisqu'en fait, dès que tu vas aller chercher des faits ou des choses, tu t'aperçois que c'est du vent. Alors, comment ça se construit petit à petit? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce que Camus va ajouter, si tu veux, à cette espèce de vision de fantasme raciste de Raspail, c'est l'idée qu'il y aurait un dessein, un complot politique, en fait, derrière ça. Et qu'en fait, cette submersion, elle serait justement organisée. Alors, organisée par qui? Remet un petit peu
Il y a pas un peu d'antisémitisme qui se balade dans l'affaire?
Alors là, c'est pas l'antisémitisme, c'est une vision qui est déjà assez ancienne. Alors elle est reprise hein, cette vision de Raspail. Il dit il y a une année qui est charnière là dans cette espèce de d'après lui en tout cas en France sur ce fantasme de submersion migratoire. C'est 85 hein, là où tu vas avoir effectivement conjointement une espèce de validation de ce truc là ou en tout cas de cette question là dans la fameuse revue Le Débat qui va poser qui est donc Giscardienne Bontin. Et en même temps, dans le Figaro de Powell, ça.
Il y avait un article dans l'Obs qui était publié il n'y a pas si longtemps que ça, qui pour une fois était intéressant. Ouais. Justement, il montrait qu'une des matrices de ce discours-là se trouve effectivement dans le débat et chez un auteur qui s'appelait Paul Yonnet. Et qui a écrit Voyage au centre du malaise français dans les années 90, je crois, où justement t'as des phrases chez Yonnet qui justement, mais pas que chez Yonnet, un autre auteur qui a été un peu là-dedans dans la contestation des lois. Ah oui, c'est un univers qu'on a complètement oublié. Ça, il y a eu un monde dans lequel un ministre de droite, bien à droite, comme tout bon, pouvait essayer de faire passer une loi condamnant davantage des propos racistes tenus en public. Et oui, ça a existé. C'est incroyable. Hein. Alors, est-ce que ces intentions n'étaient sans doute pas pures hein. Je ne vais pas faire une apologie de Jacques Toubon. C'est hors de question. Mais, il y a eu un monde où des ministres de droite pouvaient quand même faire ce genre de choses. Et parmi les gens qui s'y sont opposés, il y a un certain Bruno Latour.
Mmh. Ah, intéressant.
Avec des phrases, alors je ne les ai pas en tête là, mais qui pourraient, si jamais quelqu'un de mal intentionné les ressortait, pourrait peut-être ternir un peu la réputation de grand gauchiste de la sociologie que parfois il a. Et Paul Yonnet avait écrit des choses qui effectivement se rapprochaient, alors que c'était censé être un journal centriste, le débat. Mais bon, c'est pas pour rien non plus.
Ah bah, centriste giscardien, quoi, c'est si ça, tu veux. Ouais. Effectivement, t'as ce point de bascule-là, et en fait, plus proche de nous, en fait, ce qui va effectivement mettre un peu cette perspective du grand emplacement, ce fantasme, ce délire du grand remplacement sur orbite, c'est en fait alors un rapport de 2001 qui est fait qui est demandé par les Nations Unies et qui s'appelle en anglais Replacement Migration, donc les migrations de remplacement. Et alors en fait c'est une note prospective si tu veux, donc il n'y a aucune effectivement valeur de réglementaire, d'obligation ni de quoi que ce soit. Et en fait c'est des calculs et des estimations qui sont faites sur les pays de l'OCDE pour savoir en fait quelle est la part de population immigrée qui serait nécessaire pour maintenir le niveau des populations où elles sont pour éviter en fait qu'elles déclinent par baisse du taux de natalité. Donc un, pour le maintien des populations, et deux, pour maintenir les systèmes de protection sociale au niveau où ils le sont en 2001. C'est-à-dire combien il faudrait d'actifs pour la proportion d'actifs retraités pour maintenir le niveau de prestations sociales, de retraite, etc., etc. Donc en fait, c'est des projections, si tu veux, qui sont faites, alors pas au doigt mouillé, parce que c'est des démographes tout à fait sérieux qui le font, mais on est dans la prospective, si tu veux, là-dessus. Et c'est un rapport qui date de 2001, et donc en fait, il montre qu'effectivement, voilà, donc il y a des chiffres qui sont là. Alors donc, il nous met quoi? Il nous dit, donc c'est un sociologue qui s'appelle Joseph Grimblat. Donc, il calcule le nombre annuel de migrants nécessaires au maintien de la population jusqu'en 2050. Pour la France, dont la fécondité est la plus élevée de l'Union européenne, il faudrait par exemple 40 000 migrants par an, c'est-à-dire moins que ce qu'on a actuellement là, pour que la population se maintienne. Bon, en fait, maintien de la population, en soi, il n'a pas d'intérêt ni de sens particulier, si tu veux, mais voilà, tu as ce chiffre-là. Et alors après, poussons un cran plus loin, il nous dit, il cherche à combien il faudrait de migrants pour éviter le vieillissement de la population, donc pour maintenir le nombre de personnes d'âge actif en proportion fixe du nombre de personnes âgées, retraitées. Hein. Alors, il dit, cette fois, le résultat fut impressionnant, il fallait 1 280 000 migrants par an entre 2000 et 2025. Puis 2 300 000 entre 2025 et 2050, soit au total presque 90 millions de migrants en un demi-siècle, nettement plus que les 60 millions de personnes présentes en France en 2000, nous dit-il. Et donc, alors, la conclusion de cette note prospective-là, c'est que le volume actuel de migration suffisait donc largement à éviter la dépopulation, mais que, au fond, c'était ça l'enjeu du rapport, qu'il ne fallait pas espérer que ça allait régler le problème de financement des retraites. Voilà l'enjeu du rapport de 2001, si tu veux. Point. Ni plus, ni moins. On est sur la prospective, voilà, statistique, etc. Bon, et nous continuons en nous disant, bon, 2001, ce rapport, il nous dit, en dehors de la communauté scientifique, le rapport de l'ONU souleva peu d'intérêt à l'époque. Il faut attendre 14 ans, donc 2015, pour que Marine Le Pen et les politiques d'extrême droite s'en emparent. Alors, Marine Le Pen, le 5 septembre 2015, je cite Marine Le Pen, une fois n'est pas coutume, « J'accuse l'ONU, de concert avec la Commission européenne, d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe. Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre territoire ?» Fin de citation. Et tu vois l'espèce de malhonnêteté, mais fondamentale, c'est de mensonge éhonté, si tu veux, sur la manière d'utiliser une note prospective qui concerne le financement des retraites et qui montre qu'en gros l'immigration n'y suffira pas, en 2001, et 15 ans plus tard, qui devient en fait un programme complot, de submersion et un complot de l'ONU. L'ONU, c'est qui l'ONU ? Va savoir qui c'est, en l'occurrence. L'ONU, la Commission européenne, enfin bref, voilà, qui vous savez, comme dirait l'autre. Donc, il rappelle, effectivement, Marine Le Pen ne signale pas que les 120 millions d'immigrés n'arrivent pas d'un coup, mais représentent d'ailleurs, y compris dans le rapport, si tu veux, le total des sols migratoires pendant 50 ans. Si tu veux. Bon, bref, si tu veux, c'est une espèce de malhonnêteté foncière, si tu veux, de 1 sur le projet, sur le sens de la statistique et sur la manière d'interpréter le chiffre. Bon, c'est pas fini. Hein. La référence de Marine Le Pen, nous dit Avait le bras, au rapport des Nations Unies, a vite fait des émules. En 2016, donc un an après, l'autre grand couillon du Puy du Fou, Philippe de Villiers, ajoute « C'est un plan secret des élites qui prévoit que la France doit recevoir 800 000 immigrés par an entre 2020 et 2040. » Alors, le bras temporise. Le chiffre donné par le rapport de l'ONU pendant ces 20 ans est en fait de 23 000, hein, et pas 800 000. De la 23 600 migrants par an nécessaires au maintien de la population entre 2020 et 2040. Donc, il dit soit 472 000 au total. Il conclut en disant De Villiers a lu trop vite le rapport. Il a confondu par an avec entre 2020 et 2040. Puis, ensuite, il a mal recopié le chiffre, nous dit-il.
Voilà. Et donc, il a tout falsifié.
Et puis, il conclut en disant, bon, puis il devrait d'ailleurs aussi connaître précisément le plan secret des élites, puisqu'il en fait partie. Et donc, après, donc, les Républicains, l'arrivée, pareil, etc. Conclusion de Le Bras, force est de constater la négligence, pour ne pas dire plus, des hommes politiques de l'extrême droite et de son voisinage. Mais prenons-les au pied de la lettre et du chiffre. Est-ce que ces 40 000 arrivées de migrants estimées par l'ONU pour maintenir la population vont la transformer à l'horizon 2050 en supplantant les descendants, etc. Bon, et là, il montre que de toute façon, à supposer même, si tu veux, que les chiffres correspondent à la réalité, les chiffres des procès de la prospective de l'ONU, de toute façon, les conclusions qu'on en tire et l'espèce de paranoïa submersif qu'il y a derrière ne correspond à que dalle. Bon, voilà la genèse, si tu veux, de cette... et c'est pour ça que, si tu veux, la partie de chiffres n'est pas complètement... d'accord, n'est pas complètement... je sais pas comment dire, enfin, inutile. Parce que, bien sûr qu'au départ, tu as le fantasme. J'ai commencé par ça, si tu veux, hein, par cette espèce de dystopie, la Draspa et le camp des saints. On voit, effectivement, ce que c'est que ce fantasme raciste, crasse, suprémaciste. Mais derrière... Tu vois, ce qui va effectivement lui donner son tremplin et sa crédibilité politique comme d'une opinion publique, en quelque sorte. C'est justement cette espèce de malhonnêteté fondamentale là, de l'extrême droite qui va te bidonner des chiffres et des statistiques pour en faire quelque chose d'autre. Voilà.
On fait une pause et on revient.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Pour sa troisième et dernière partie, vous venez d'entendre France Douce, Andy Abortion, Watch Out, morceau de 86, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Et ce soir, Jean-Mathias donc, nous présente un livre d'Hervé Lebras, Il n'y a pas de grand remplacement, c'est un essai publié chez Grasset. Hervé Lebras est démographe, et il montre quelles sont les bases fantasmatiques donc de cette fumeuse théorie du grand remplacement, et il montre aussi sur quelle falsification finalement elle s'appuie et pourquoi elle n'a aucune valeur scientifique, en plus de n'avoir aucune pertinence politique, on peut l'ajouter aussi,
et d'être charmante moralement.
Ouais,
mais ça effectivement les extraits de Raspail là sont assez éloquents de ce point de vue là donc c'est une espèce de plongée située au départ effectivement, comme tu dis, dans l'imaginaire raciste le plus crâne en fait effectivement, et du suprémacisme blanc voilà, à la française en l'occurrence, puisqu'on a aussi nos références là-dessus. Et alors bon, et la manière dont effectivement ce truc là est devenu autre chose, hein, est sorti des égouts effectivement et des égouts subconscients de l'ultra droite pour devenir une espèce de mot d'ordre politique, y compris de slogan de campagne pour des présidentielles chez Zemmour ou d'autres. Alors il montre quand même que, si tu veux, donc effectivement c'est le Raspail, c'est encore une fois c'est un livre culte, hein, pour l'ultra-droite. Camus, évidemment, c'est aussi un auteur culte pour Renaud Camus.
Renaud Camus, bien sûr. Pitié.
Renaud Camus, donc l'auteur de ce livre sur le grand remplacement, est aussi un auteur culte, qui était d'ailleurs cité par Breivik, là, l'assassin, oui, suédois qui avait descendu 80 personnes à la Kalachnikov, par l'Australien, par les suprémacistes, oui, américains.
L'Australien ou le Néo-Zélandais qui a tué des musulmans?
Les deux. Le premier, le Suédois était aussi un grand admirateur de Renaud Camus. Alors oui, c'est effectivement, mais là on est dans les groupuscules, si tu veux, on est dans les groupuscules suprémacistes, voilà, à travers le monde. Ce qui l'intéresse aussi, ce qui l'inquiète aussi, c'est en fait la particularité française, si tu veux, qu'il y a de cette perception d'une espèce de submersion qui n'est pas partagée, par exemple, en Allemagne. T'as absolument pas, si tu veux, cette culture-là. En Angleterre non plus, en Espagne non plus, en Italie non plus. C'est-à-dire, ce sont des pays qui sont comparable, disons, et qui accueille relativement plus d'immigrés que la France, hein, qui est extrêmement déjà, voilà, sélective, hein, sur ses critères et qui complique beaucoup l'arrivée. Pourquoi effectivement il y aurait cette spécificité française? Alors, il y a un truc qui est intéressant là-dessus. Je sais pas ce que ça vaut parce que ça va vite, mais c'est intéressant. Il montre en fait que, enfin, d'après lui, c'est une hypothèse historique qu'il fait, c'est qu'en fait cette espèce de fantasme de l'invasion migratoire, il a une origine en France qui remonte probablement au traumatisme de la défaite de 70 et à l'invasion des Prussiens. Et surtout à ce que ça a déclenché derrière, c'est-à-dire qu'en fait, t'as la chute du deuxième empire. Donc, alors, le premier, c'est la France qui, pour le coup, submerge l'Europe, hein, par ses armées, ses troupes, son idéologie, sa révolution, ses dictateurs, etc., etc. Enfin, son dictateur. Et puis Napoléon III, ça finit exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les Prussiens qui débarquent à Paris, si tu veux, hein, les Prussiens, Russes et autres. Et derrière, il y a cette espèce de traumatisme. Comment, effectivement, d'un Napoléon à l'autre, on a complètement inversé les choses. Et du coup, derrière, tu as tout un discours au moment de la Troisième République qui va se mettre en place et qui va en fait expliquer cette défaite par la démographie et par la faiblesse démographique, si tu veux, en France, comparée à nos voisins allemands, et donc le risque de submersion. Au fond, c'est une espèce de... Il y a un côté un peu positiviste dans cette affaire-là, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, mécaniquement, une population plus dynamique, plus nombreuse, avec des... a entraîné cette défaite-là. Et du coup, il faut qu'on rattrape, si on veut récupérer l'Alsace et la Lorraine, il faut évidemment faire tout un tas d'enfants pour aller foutre la pâtée aux Allemands. Il faut être au moins aussi fécond qu'eux, qu'ils ne le sont. Et du coup, si tu veux, t'as un discours qui se parle, qui déplore, si tu veux, voilà, cet écart migratoire suite à cette défaite de 70 là, et qui va ensuite effectivement embrayer à droite, mais pas seulement, sur le risque que représentent les migrations. Parce que non seulement on fait moins d'enfants, mais en plus on a une population qui va être corrompue en quelque sorte par des gens qui sont pas complètement fiables, qui sont des migrants qui viennent, alors là en l'occurrence de Belgique, puis d'Italie, et qui d'une certaine manière corrompent, tu vois, effectivement, au risque de corrompre. Et tout ça nous mène à la déségrégation du pays, de la nation, et donc nous risque de nous faire reperdre de nouveau contre les bords, etc. Donc, en trois étapes, c'est important, parce qu'en fait, il dit d'abord, donc c'est un discours qui se construit en trois étapes. T'as un, effectivement, cette espèce d'analyse démographique de la défaite de 70. Deux, le deuxième étage, le risque qui sont liés à une immigration qui serait pas de souche, entre guillemets, souchienne. Et trois, la désagrégation de la nation, la désagrégation morale, si tu veux, du peuple. Hein, la corruption du peuple. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'en fait, avec le grand remplacement aujourd'hui, finalement, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part, si tu veux, de l'espèce de corruption morale du peuple à cause des gauchistes, des droits de l'homistes, des islamo-gauchistes, de ceux qui veulent accueillir des immigrationnistes. Donc on commence par ça, si tu veux. En deuxième temps, effectivement, on critique le complot migratoire de l'ONU. Hein, et dans un troisième temps, on va essayer de faire des projections démographiques, si tu veux. Mais et ce qu'il observe, si tu veux, c'est que c'est intéressant de montrer que tu as une espèce de d'inversion, si tu veux, des priorités, parce que en fait, ce qu'il montre, c'est que plus on s'éloigne du point de départ et de la motivation essentielle, moins on est précis, en fait, dans les argumentaires. Et donc, si tu veux, sous la Troisième République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est des démographes, si d'abord, qui très sérieusement, tu vois, travaillent, essayent de produire des études, etc. Et qu'ensuite, ça va devenir autre chose. Et puis que, en fait, la corruption, si tu veux, du peuple français, c'est réservé pour le coup, aux pamphlétaires, ultra-droite, antisémites, etc. Mais là, on perd, si tu veux, en impact et en crédibilité, quoi, hein. Et pour le grand remplacement, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, on part finalement du fantasme de la corruption du peuple et de la submersion. Ensuite, effectivement, on essaye de valider ce fantasme-là avec des pseudo-statistiques tirées de l'ONU ou du rapport de machin. Et après, on va essayer de, tant bien que mal, de justifier ça par des projections démographiques qui, évidemment, du coup, ne tiennent absolument plus la route en quelque mesure que ce soit. C'est intéressant, je trouve, cette espèce de mise en parallèle, parce que c'est à la fois la même chose et en même temps pas la même chose, si tu veux. C'est-à-dire que là, ce qui est premier dans le grand remplacement, c'est le fantasme. Voilà, c'est évident, c'est le fantasme. Et en fait, c'est pour ça qu'effectivement, l'opposition des chiffres, alors à la fois, effectivement, tu peux douter de sa pertinence, mais en même temps, elle est importante, parce que si tu veux, c'est des gens qui d'une certaine manière, partent de ça, c'est leur motivation essentielle, et d'une certaine manière, qu'ils revendiquent. Et d'après Lebras, et je pense qu'il n'a pas forcément tort, ça peut être une fragilité, si tu veux. Ça peut être une fragilité, c'est-à-dire que des gens qui revendiquent effectivement de ne pas s'intéresser aux chiffres, de ne pas s'intéresser aux faits, de ne pas s'intéresser au réel, effectivement, là on est dans l'acte de foi. Alors effectivement, ils sont difficiles à convaincre, mais en même temps c'est quelque chose qui risque peut-être de se répandre aussi moins vite que lorsque tu as une espèce de validation pseudo-scientifique ou démographique, comme ça a été le cas sous la Troisième République, si tu veux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a l'air d'avancer. Je trouve pas ça complètement inintéressant. Alors, concernant Camus, si tu veux, il montre effectivement que du coup, Camus met même en avant, il se pique d'une sorte de mépris en fait des statistiques, si tu veux, hein, de mépris des chiffres, il le dit. Donc il montre, voilà, Camus endosse en affirmant la supériorité de la littérature sur la science, pour laquelle il est méprisant, particulièrement pour ce qui est... C'est intéressant, ça aussi, c'est une tradition française aussi. Hein, voilà,
la supériorité... Il a une intuition formidable qui lui permet de voir la réalité telle qu'elle est, à travers les...
Tu ne crois pas si bien dire, alors ça continue. Donc la science pour laquelle il est méprisant, particulièrement, je cite là Lebrun, dans le « Il n'y a pas de grand remplacement », donc il est méprisant particulièrement pour ce qui est chiffré, et donc la statistique. En voici quelques exemples parmi un large choix. Donc, les statistiques sont éternellement mensongères, page 54. La statistique à laquelle il semble bien que l'on puisse faire dire à peu près ce que l'on veut sur l'objectif poursuivi, page 57. La sociologie, pourvoyeuse par excellence en minerai de faux, dispose avec la statistique d'un moyen formidable d'apprêter le réel à son gré selon les besoins du pouvoir, page 265. À la base, nous dit Hervé Lebras, les ennemis, ce sont les chiffres. Paradoxalement, donc il cite là encore, paradoxalement et très habilement, ce qui sert, donc ça c'est Renaud Camus qui parle, hein, enfin qui écrit plutôt, paradoxalement et très habilement, ce qui sert à maintenir la vérité au fond de son puits et à lui donner de grands coups de pied et de battes de baseball quand elle essaye d'en sortir, ce sont les chiffres. Je pense bien sûr aux statistiques et à la sociologie en général, dont j'aime à dire qu'elle aura été au pouvoir remplaciste ce que la biologie de Lysenko fut au pouvoir stalinien, de point son âme damnée. Page 305. Hein. Pour finir, le bouquet, nous dit Lebras, non, 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 Renaud Camus, là, il cite encore Renaud Camus, hein. Non, 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 je ne travaille pas avec des scientifiques, des statisticiens, des ethnologues, je ne travaille pas du tout même, dit-il, page 55. Étrange aveu, nous dit Hervé Lebras, de nouveau citation, car le grand remplacement ne relève en aucune façon de la preuve et moins encore des chiffres, nous dit-il. Alors, de quoi relève-t-il? Eh bien, il relève de l'évidence, comme tu disais. C'est évident. Pourquoi aller se faire chier à mesurer, à essayer de se confronter, de faire des enquêtes, de voir si ce qu'on dit correspond à la réalité ou pas, puisque c'est évident, on te dit. Et alors donc, effectivement, l'évidence, elle est où? Elle est toujours dans son livre. Alors là, il me semble qu'il y a une petite référence qui a échappé à Hervé Lebras, mais qui est savoureuse aussi, parce qu'en fait, il nous dit... Alors là, on est page 54 encore, là, du grand remplacement, tome 1, hein, bon... Il suffit d'en croire ses yeux, lui dit Renaud Camus. Surtout d'oser voir ce que l'on voit, d'oser penser ce que l'on pense, d'oser nommer ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on souffre. Joignant la parole à l'acte, Camus livre un cas particulier qu'il écrit avoir vu à la télévision. Alors, Lebras demande, est-ce que c'est ça, ouvrir les yeux? Et là, il cite, et là, Lebras se saute pas sur la...
On se fatigue.
Et donc, il saute pas sur la référence, mais c'est quand même quelque chose. Il dit, un certain Richard Millet, entre parenthèses, un de ses amis, apprend-on dans un autre ouvrage, se retrouve... Je cite Camus une fois encore, seul blanc à la station Châtelet à 6h du soir. Alors le Richard Millet, je ne sais pas si c'est le même, mais il se trouve être un romancier, ancien phalangiste d'ultra-droite, publié chez Gallimard, fervent admirateur de Céline, et un des intouchables des auteurs effectivement antisémites et ultra-droite de Gallimard. Alors il se pourrait effectivement que ce soit le même Richard Millet, en l'occurrence, alors Lebras ne tilte pas sur la référence, mais en fait voilà l'évidence sur laquelle tu dois t'appuyer, c'est-à-dire effectivement sur ce que rapporte Richard Millet, un soir qui se trouvait à 6h à la station Châtelet. Je pense que Richard Millet ne prend plus le métro depuis
bien longtemps.
Depuis 1908, je pense, à mon avis. Et alors, Lebras enchaîne en disant, afin de contrôler cette observation, cette évidence, je me suis rendu à la station Châtelet à 6h du soir pendant 5 jours pour compter la proportion de blancs en faisant confiance à mes yeux, comme le recommande Camus. En 60 comptages sur plusieurs quais, hein, entre deux métros, j'ai comptabilisé en moyenne 25% de non-blancs, dont un bon tiers d'asiatiques. Jamais, parmi ces 60 observations, le pourcentage de non-blancs n'a dépassé 35%. Me dit Hervé Lebras. Aurais-je des yeux différents de ceux de Richard Millet? Mais apparemment, oui. Nous n'avons pas vu la même chose et d'autres verraient encore autre chose dans d'autres stations de métro, à d'autres heures, dans d'autres villes et hors des métros et des villes. La science a été développée par les Grecs, puis au milieu du 17e, nous dit Hervé Lebras, à la Royal Society, pour que l'on puisse se mettre d'accord grâce à la répétition des observations et des expériences. Se méfier du témoignage des sens est, avec se méfier du sens commun, l'une des règles les plus importantes de la pratique scientifique. Comment Renaud Camus, qui réside le plus souvent dans un château du Gers, peut-il connaître l'existence des 67 millions d'habitants de la France ? Demande Hervé Lebras. Donc voilà le type d'évidence sur lesquelles effectivement repose cette approche du grand remplacement. Alors après, je ne veux pas m'étendre trop ce soir sur les questions des chiffres, si tu veux, parce que la radio, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut aller les regarder parce qu'ils sont importants, ces chiffres-là. Et notamment, ils font apparaître quelque chose qui est systématiquement exclu, si tu veux. Alors ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sur les valeurs, mais même sur les catégories qui sont utilisées par la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire la théorie entre guillemets, le fantasme du grand remplacement repose sur l'idée qu'il y aurait des populations distinctes et hétérogènes,
oui,
bien sûr, et qu'il y en aurait une close sur elle-même qui serait remplacée par une autre close sur elle-même, ce qui est évidemment un fantasme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de populations blanches d'origine judéo-chrétienne que de populations africano-musulmanes, en fait. Les deux catégories sont dépourvues d'à peu près toute pertinence, et ça t'exclut donc déjà à la base, si tu veux. Et puis, évidemment, ce qui est exclu de cette vision-là, c'est bien évidemment toutes les formes de métissage ou de mixité, ou notamment dans les mariages mixtes, par exemple, aussi évident que ça puisse paraître, qui sont exclus par avance, si tu veux, des statistiques. Alors, il montre que là, c'est pas la faute de Renaud Camus qui se fout des statistiques, mais qu'il y a effectivement régulièrement, dans les statistiques, une espèce d'angle mort de ce point de vue-là. Alors, il y a des études, évidemment, sur les mariages mixtes et sur les enfants issus de mariages mixtes, et puis voilà, sur plusieurs génération, sur les projections que ça implique, etc. Mais ce fait-là, si tu veux, ce fait-là, qui est un fait brut, je dirais, voilà, d'une certaine manière, il invalide à lui tout seul, si tu veux, la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler, en fait, de submersion démographique d'une population close sur elle-même et définie une fois pour toutes par une autre. Enfin, la possibilité même, si tu veux, du métissage, de toute façon, t'exclut l'idée de remplacement, en fait. C'est comme étant pertinente. Toute chose égale par ailleurs, il y a eu le même problème dans toutes les sociétés esclavagistes, si tu veux. À partir du moment où tu avais des affranchis, à partir du moment où tu avais du métissage, l'esclavagisme est de toute façon incohérent. C'est-à-dire, en fait, le système racial et le système d'apartheid, si tu veux, que t'as eu, est incohérent. Parce que précisément, il exclut a priori cette possibilité-là qui est une réalité. Donc en fait, je vais vite là-dessus parce qu'effectivement, c'est pas très radiophonique les chiffres, mais il y a aussi tout un tas de choses très intéressantes sur justement les torsions de chiffres et les torsions statistiques qui sont utilisées par les partisans de ce fantasme du grand remplacement, notamment sur la question du nombre d'entrées. Hein, la submersion, elle insiste systématiquement sur le nombre, les vagues d'entrants, comme si tu avais comme ça des vagues d'immigrés qui entraient en permanence, voilà, les vagues de clandestins. Et en fait, ce que dit Lebras, c'est que les entrées, en fait, ne veulent strictement rien dire. Alors qu'elles sont difficiles, d'une part, à évaluer, ça c'est clair, y compris par le ministère de l'Intérieur. Quand le ministère de l'Intérieur parle des titres de séjour, par exemple, les titres de séjour, ils sont pas délivrés aux entrants physiques, ils sont délivrés parfois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après l'arrivée de la personne. Et puis, parfois, t'as des gens qui ont séjourné sur le territoire pendant des longues périodes et qui sont repartis et qui sont pas pris en compte du tout par les titres de séjour, et qui dit qu'en fait l'idée comme ça de focaliser ce qui est systématique, si tu veux, à l'extrême droite et pour les gens qui veulent appuyer ce type de perspective là, d'insister sur le nombre d'entrées par an, soi-disant, est une idée qui a pas de sens non plus. C'est-à-dire que l'entrée, si tu veux, elle a aucun sens si tu mets pas la durée de séjour. Donc il faut arriver à calculer ça, et donc évidemment ça c'est pas calculable en tant que tel parce qu'il y a une telle diversité des cas. Nous dit en fait les seules statistiques sur lesquelles on peut éventuellement faire des projections factuelles, c'est en fait la proportion de personnes non nées en France qui apparaît à l'occasion des recensements annuels. Donc là, effectivement, tu peux, petit à petit, année par année, avoir des chiffres à peu près consolidés. Alors, ceux qui ne sont pas exactement, si tu veux, conformes à la réalité du point de vue de Dieu, mais c'est à peu près la seule statistique fiable que tu puisses avoir, parce que du coup, tu peux évaluer la durée de séjour, la circulation. Et évidemment, l'autre absurdité qui a insisté à se focaliser sur les entrants, c'est évidemment que tu ne prends pas en compte ceux qui sont sortants ou qui meurent. Voilà, évidemment. Et donc, la dynamique, je dirais, d'une population, elle est de métissage, elle est d'arrivée et de départ, et elle est de naissance et de décès. en fait. Et donc, en fait, si tu ne focalises, si tu veux, et si tu n'extrapoles qu'à partir qu'un de ces paramètres, ben, en fait, tu fais tout sauf de la démographie, bien sûr. Tu fais tout sauf de la démographie. Alors, tu peux justifier tes fantasmes, tes délires paranoïaques, ta haine des non-blancs ou de ce que tu veux, un peu à la Jean Raspail ou à la Éric Zemmour. Tu peux tenir la ligne de front à Saint-Tropez comme il s'apprête à le faire actuellement, mais t'auras jamais, en fait, fait autre chose que qu'alimenter tes propres fantasmes. Peut-être juste pour terminer, vraiment terminer, la dernière phrase, la chute du livre, en fait, qui rappelle un petit peu les enjeux, c'est ce que je disais. Il est pas forcément très optimiste, hein, sur la capacité à débunker, comme on dit maintenant, hein, en donnant des chiffres, ce fantasme-là. Il le dit d'ailleurs, détruire un tel édifice fantasmatique sera sans doute difficile. Il me dit, les sectes qui avaient prévu une fin imminente du monde auraient dû être désavouées lorsque rien ne s'est produit à date prescrite. Au contraire, dans les fanatiques de l'apocalypse, Norman Cohn a montré qu'elles en sortaient souvent revigorées et multipliaient leurs adeptes. Les arguments factuels et démographiques qui rendent hautement improbable un remplacement de la population ne seront pas plus pris en compte par les élateurs du grand remplacement, qui ne croient pas aux statistiques ni même à la science. Et là, il cite, pour terminer, Renaud Camus, « Le grand remplacement est une réalité, nous dit Renaud Camus, aussi évidente que la Fronde, la Commune de Paris ou l'occupation allemande. » Hervé Lebras conclut en disant « Aussi évidente, pourrait-on ajouter, que l'immobilité du globe terrestre autour duquel tourne le soleil. » C'est une belle chute, voilà, de ce petit bouquin.
Voilà, donc vous présentez le bouquin d'Hervé Lebras, « Il n'y a pas de grand remplacement », qui donc essaie de se situer au niveau des faits pour montrer l'inanité de ce fantasme, sachant que le plus inquiétant, c'est que ce fantasme est quand même bien pris pied chez nous. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois, et amusez-vous bien d'ici là.